Nadwa.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.
Nous avons le plaisir d'inviter avec nous un des professeurs de l'Institut national d'archéologie du patrimoine, M. Mohamed Kberi Alaoui, qui est un chercheur à l'Institut national d'archéologie et du patrimoine, comme je viens de le dire, et il est directeur de deux programmes, si ce n'est pas trois programmes d'archéologie de cet institut, et il est directeur du programme des fouilles archéologiques du site de Rira. Rira, sur lequel Si Mohamed Kberi Alaoui nous propose de nous emmener en voyage, d'abord à travers l'espace et deuxièmement à travers l'histoire. Car ce site, grâce au programme archéologique qu'il a pu encadrer et diriger jusqu'à maintenant depuis 2004, a livré énormément de secrets de cette cité millénaire et que nous avons le plaisir effectivement de présenter, qui a le plaisir de nous présenter aujourd'hui même. Monsieur Alaoui, il est professeur d'enseignement à l'Institut national, et il est directeur du programme d'Orira et il est directeur du programme de Kouas, qui sont donc deux programmes archéologiques prometteurs. Et je crois que le site sur lequel on va marquer une pause aujourd'hui mérite effectivement le détour, par son intérêt historique et pour son intérêt archéologique. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à M. Kberi Alaoui, qui va nous présenter ce merveilleux site qui se trouve dans la plaine de l'Gharb, pas loin de Sidi Slimane.
Merci, Si Hassan. Je suis heureux donc d'avoir cette occasion de participation dans le programme culturel du salon du 25e, la 25e édition du Ciel ici à Casablanca. Donc, je présente cette conférence au nom de toute l'équipe de RIRA et je voudrais avant donc présenter mes remerciements aux organisateurs au niveau du ministère de la Culture et notamment de la direction du livre. Donc, le programme ou le site de RIRA qui se trouve donc pas loin de Sidi Slimane fait l'objet d'un programme de recherche qui est mené depuis 2004 dans le cadre de la coopération internationale entre le ministère de la Culture, donc l'Institut relevant de ce ministère, et le ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes français, avec d'autres institutions, à savoir la Casa de Velázquez. Le site de Rira correspond donc à une agglomération qui est occupée durant l'Antiquité, donc depuis l'époque maurétanienne, depuis le 5e siècle avant au moins, et l'époque romaine jusqu'à l'époque médiévale, tout précisément le 14e siècle. Cette conférence donc portera sur une présentation générale des recherches qui ont été donc menées sur ce site depuis 2004 dans le cadre du programme de recherche signalé. Donc, c'est un site qui est situé dans la partie nord du Maroc, au nord donc du Moyen Atlas, vous voyez la carte. C'est un site qui fait partie d'un réseau d'agglomérations qui remonte à l'époque mauritanienne et à l'époque romaine notamment. Il se trouve plus exactement donc à une trentaine de kilomètres du site célébrissime de Volubilis. Et il est en limite sud de la plaine alluviale de l'Ouedzbo. Donc, ça là constituant en fait la limite sud de la ce qu'on appelle la province de Maurétanie-Tingitane, donc le Maroc antique sous Rome. Et le site donc de Rira se trouve pas loin de cette limite sud de toute la province romaine, occupée ainsi surtout à cette époque-là, au cours du premier et du deuxième siècle après. cette limite en fait de l'occupation militaire et administrative de Rome va être rejetée à partir du IIIe siècle, de la fin du IIIe siècle, vers le Lucos, à peu près donc l'Ixus Larache actuellement. Donc le site de Rira, à cette époque-là, au IIIe siècle, se trouve à l'extérieur de la limite de l'occupation romaine. C'est un site qui correspond à une éminence topographique par rapport à la plaine du Rarb, et il est situé plus exactement, vous voyez donc sur la carte à droite, il est situé à environ 8 km au nord de Sidi Slimane. Il n'est pas loin d'un autre site qui n'est pas moins important, le site le fameux site du domaine du Beth ou la ferme Prio, qui se trouve actuellement vraiment en plein centre de Sidi Slimane. Donc c'est un site important occupé à l'époque maurétanienne et romaine qui aurait fonctionné en même temps que le site donc de Rira. Sur la carte gauche, vous voyez donc le site qui occupe la rive droite de l'Oued Beth, qui est un des affluents du Sbou. Il est étendu sur un espace enserré dans un des méandres de l'Oued, qui correspond en fait à un tel artificiel ayant connu une succession d'occupations depuis donc le 5e siècle avant jusqu'au 14e siècle après. Donc c'est environ donc une vingtaine de siècles d'occupation. Une série de sondages géomorphologiques a montré que le tracé de l'Oued Beth, correspondant donc à l'actuel donc Oued Beth, ce tracé a connu donc une évolution. Vous voyez sur la carte en bas, il a été donc il y a une évolution vers le côté ouest avec donc la création d'un certain nombre de terrasses basses, et puis il y a on va dire un certain épincement. Vous voyez donc les berges de l'Oued étaient beaucoup plus évasées dans l'Antiquité, et il y a un certain épincement du côté sud et du côté nord, ce qui a fait que le site a connu une érosion fluviale qui a détruit en partie le site du côté nord comme du côté sud. Donc cette évolution de l'Oued Beth qui a affecté l'occupation du site, donc le site il ayant été détruit, oui, c'est une évolution qui a commencé à partir de l'époque romaine. Donc c'est pour dire que sur le site, à partir donc de 2004, nous avons pu mener plusieurs recherches pluridisciplinaires, dont les recherches d'abord géomorphologiques. Alors, le site a fait l'objet découvertes depuis la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il a été considéré comme un petit établissement romain, concentré surtout, donc, une occupation de ce site, de cet établissement, qui est concentré surtout sur le côté est du site. La première intervention archéologique sur le site se doit à Louis Châtelain, qui avait, c'était le chef donc du service des antiquités du Maroc, qui a effectué une série de sondages sur l'ensemble du site. Vous voyez donc sur la carte, tout ce qui est en vert correspond à des interventions, des sondages, des tranchées qui ont été ouvertes par Louis Châtelain sur le site. Donc, ce qu'il a pu donc avoir comme information à partir de ces sondages et de ces tranchées, c'est la mise en évidence de l'occupation du site, notamment du côté est, où il a montré donc l'existence d'une enceinte romaine, donc une muraille, deux domus, donc deux grandes maisons, un établissement thermale et dans l'interprétation donc générale qu'il avait donnée à l'époque à l'ensemble de ses découvertes, il avait constaté qu'il s'agirait donc d'un poste militaire ou une villa ferme fort fortifiée. Donc lors de ces travaux, donc il y a eu beaucoup de découvertes. Ce que vous voyez donc en noir et blanc, ce sont des photos de Louis Châtelain d'épitaphe. En haut, une épitaphe qui est donc c'est une stèle de quelqu'un qui est mort donc à Rira, qui porte donc le nom de ce monsieur qui s'appelle Pisanus, et l'épitaphe dit ici repose Pisanus et Publius Vratius. Donc c'est l'épitaphe en bas. Ce qui veut dire que donc il y a quelque part sûrement à l'extérieur du rempart du site une nécropole qui n'a pas encore été mise au jour. Donc ce sont les seules découvertes qui ont été publiées les seules découvertes des travaux, des fouilles de Michel ou de Louis Châtelain, pardon, qui ont été donc découvertes. Alors ensuite il y a eu des travaux donc il y a eu les premières recherches de Louis Châtelain dans les années 1920 et la deuxième grande opération correspond à ce que a effectué Maurice Uzena dans la zone du Tell. Maurice Uzena qui a été donc encouragé en quelque sorte par ses découvertes sur un autre site de la plaine du Rab qui est Banassa, où il avait pu mettre au jour des niveaux mauritaniens importants. Donc il a soupçonné l'existence d'un établissement pré-romain à Rira et il a effectué une grande tranchée. Vous voyez en rouge donc sur l'ensemble, le cercle en rouge correspond donc à l'endroit où il a effectué une grande tranchée de 6 mètres et demi de profondeur et de 15 mètres de long sur 3 mètres de large. On a pu établir une coupe stratigraphique à partir donc de ce qu'il a fait comme donc fouille, comme tranchée, et les constatations les plus importantes c'est d'abord au niveau chronologique, on a situé donc l'occupation du site entre le 3e siècle avant jusqu'au 3e siècle après. Puis la mise en évidence dans les niveaux inférieurs de cette tranchée, de cette fameuse tranchée de Zena, la mise en évidence d'une architecture de terre qui est importante avec des indices de l'activité potière. Or, un autre jalon des recherches que le site a connu correspond aux prospections de Sbou qui ont été donc effectuées dans les années 1980-1990. Ce sont donc des prospections pédestres et les chercheurs, donc des chercheurs marocains et français, ont pu donc d'ailleurs si Hassan Liman avait co-dirigé ce programme qu'on appelle donc le programme de prospection du Sbou, du bassin du Sbou. Il y a eu donc beaucoup de ramassage de matériel et les membres de cette mission avaient donc pu constater que l'étendue du site fait à peu près 10-11 hectares. Et nous avons donc, on a pu, grâce à ces travaux du Sbou, placer en quelque sorte le site dans son environnement, qui n'était pas donc un environnement isolé, puisque on a pu, vous voyez donc sur les deux cartes, à droite donc la carte, à gauche l'occupation du Bête supérieur et moyen à l'époque mauritanienne. Donc on a pu mettre en évidence, trouver, identifier un certain nombre de sites d'époque mauritanienne et à gauche donc la même étendue donc du Bête supérieur et moyen avec l'occupation romaine et nous constatons que l'occupation a été vraiment intensifiée, comme un peu partout dans les différentes parties du Maroc antique occupé à l'époque romaine. Or, sur un autre sujet, donc on avait pu mettre en évidence quelque chose qui est important, c'est que la plaine du Gharb, qui était considérée comme une plaine marécageuse et donc inoccupée pendant l'époque antique, la mission a pu constater que ce n'était pas vrai et que les points éminents où il y a donc une certaine élévation qui était en dehors des partie marécageuse était bel et bien occupée, que ce soit occupation militaire ou occupation civile. Voilà. Donc ça, c'était les constatations importantes. Autre question soulevée par la mission du SBU, c'est l'identification du site de Rira à un site qui s'appelle Gilda, qui est mentionné dans les textes antiques comme étant, qui correspondrait d'après donc l'interprétation de quelqu'un, si Mohamed Mjdoub, enseignant chercheur à l'université Mohamedia, qui avait donc émis l'hypothèse selon laquelle cette Gilda serait la capitale de l'Aglid, donc du chef, du roi du Maroc antique à l'époque mauritanienne. Donc il y a eu divergence d'opinion entre les uns, des chercheurs qui considèrent que Rira serait correspondrait à Gilda, et d'autres qui disent que ce où Gilda serait ou correspondrait plutôt à la ferme priorité. Donc site qui a été donc occupé et à l'époque mauritanienne et à l'époque romaine. Alors, le site de Rira a fait l'objet de nouvelles recherches depuis l'année 2004. Donc, j'avais la chance de co-diriger aux côtés de mon collègue Laurent Calais-Garin, directeur des études à la Casa de Velázquez, ce programme depuis 2004. Puis ensuite, il y a eu donc trois quadriennaux avec donc une co-direction de Clairin de Chazelle, puis de Charlotte Carato et Elsa Rocca, et donc on est au quatrième quadriennal qui commence de 2018 à 2021. Ça va continuer à 2021. Donc c'est un site donc qui a deux occupations, une occupation pré-romaine ou mauritanienne. Nous avions donc à vérifier quelle était donc l'importance de cette agglomération par rapport à d'autres agglomérations mauritaniennes de la plaine du Gharb comme Banassat, Musida par exemple, voir donc la question de l'urbanisation de la Mauritanie occidentale avant l'arrivée des Romains. Nous avions donc à vérifier aussi une hypothèse selon laquelle donc sur ce site il existerait un atelier monétaire, et voir aussi la question qui est importante aussi de l'activité potière sur le site. Est-ce qu'elle est comme l'avaient donc soupçonné nos prédécesseurs, est-ce qu'on en a donc des données sur cette activité ou pas. Donc nous avons repris les recherches sur deux chantiers. D'abord donc sur la photo en bas, vous voyez donc l'ensemble 5 à l'extrémité de la partie orientale, où nous avons donc entrepris des fouilles sur l'habitat mauritanien. Donc première zone de fouille. Ensuite sur l'ensemble 1, donc côté est, qui correspond en fait à un ensemble, à un quartier d'époque romaine, où nous avons donc une muraille, une maison, un établissement thermal. Donc il y a eu donc cette approche diachronique, voire l'occupation, l'étendue de l'occupation depuis l'époque mauritanienne à l'époque romaine, sinon à l'époque donc médiévale. Et dès le début, nous avions donc décidé suivant donc l'approche qui a été donc adoptée à l'Institut national des sciences d'archéologie, qui est donc une approche de recherche archéologique pluridisciplinaire, donc d'impliquer tous les spécialistes qui pourraient donc apporter des données sur cette occupation. Et donc nous avions donc, vous voyez à droite, quelques donc restes carpologiques, minérales, paléo-environnementales, et à gauche donc quelques restes archéobotaniques et archéozoologiques qui ont été donc trouvés sur dans les couches antiques et d'époque médiévale qui ont été donc fouillées. Donc ce qu'on fait, c'est parallèlement donc à l'étude classique qui est la fouille et donc l'observation sur le terrain, les questions de chronologie et d'interprétation des différents niveaux d'occupation. Donc on met à la disposition des spécialistes concernés, donc l'archéozoologue et les gens qui travaillent sur le palio environnement, les restes qu'on a pu trouver donc dans ces différentes couches, pour voir donc ce qu'il y a comme reste, identifier les plantes anciennes, identifier donc la flore et la faune correspondant donc à aux occupations qui ont été étudiées. Et donc il y a tout un travail important. En 2017, nous avons pu fabriquer un modèle d'une machine à flottation qui permet de tamiser les sédiments plus rapidement, les sédiments donc qu'on trouve sur le site qu'on fouille. Et donc c'est la même machine qu'on trouve ailleurs en France, et ça permet donc de trier les graines, les charbons avant donc de faire les analyses de ces différents restes au laboratoire, donc pour déterminer comme je disais le type de plante et d'essence de bois qu'on a trouvé. Donc toujours par rapport à cette question de pluridisciplinarité dans la mission de l'IRA, nous avons donc aussi consacré du temps pour l'étude des échanges de produits fabriqués ou importés sur le site. Vous voyez donc une série de monnaies. Et nous en avons donc trouvé beaucoup de monnaies qui proviennent de différentes parties de l'Afrique du Nord, des monnaies importantes frappées donc à l'est de l'Algérie, des monnaies numides qui remontent à la fin du deuxième siècle et surtout au premier siècle. À droite, vous avez donc un modèle de céramique peinte que nous pensons donc une céramique qui peut être soit fabriqué localement à Rira, soit importé d'un autre site qui est le site de Banassa. Et la question donc de l'activité potière à partir donc de ces vestiges, à partir de ces céramiques, fait l'objet maintenant d'une recherche que mène une étudiante, Chaima Imrani, dans le cadre donc des activités de la mission. Donc nous avons aussi pu mener depuis 2005 des prospections géophysiques. Vous voyez donc des collègues qui travaillent donc, qui ont donc effectué une série de prospections géophysiques et électriques sur le site, et qui ont montré donc avant donc le passage des fouilleurs, qui ont pu identifier un certain nombre d'anomalies correspondant à donc des vestiges archéologiques, et nous avons pu vérifier l'existence de ces vestiges. mois de janvier 2019, nous avons repris ces prospections géophysiques avec une équipe allemande pour donc élargir un peu ces prospections, et nous avons eu beaucoup de résultats qui sont vraiment enrichissants. Si l'importance de ces travaux, c'est de pouvoir donc évaluer l'extension de l'agglomération de Rira dans différentes époques, donc antique, mauritanienne et romaine, et l'époque médiévale. Alors, nous sommes aussi appuyés sur, pour tout ce qui est documentation graphique, architecturale, relevée, sur des méthodes innovantes dans la photogrammétrie, le SIG, donc le système d'information géographique, et vous voyez sur la photo donc à gauche le relevé à la perche et au cervelon. Il y a donc une collègue qui s'occupe de toute cette partie, donc avec notre collègue Sim Mohamed Alilo, qui s'occupe aussi des relevés à la main et à la LIDAD. Or, première, donc, pour revenir à l'histoire du site, la première donc période qui nous a intéressé, c'est la période mauritanienne, et nous avons, grâce à ces recherches, donc des preuves tangibles sur une occupation du site allant entre le 5e siècle avant au 1er siècle, à la fin du premier, enfin milieu du, disons, du 1er siècle. Donc l'arrivée des Romains datant de 40 après. Donc sur cette carte ou le plan, vous avez une, donc en rouge, l'étendue de cette occupation mauritanienne, qui est une étendue établie, délimitée selon donc ou délimitée entre ce triangle, trois points donc où nous avons donc cette occupation, tout à fait à l'est donc l'ensemble 5, avec donc les travaux de Maurice Zana, ce que nous avons repris, j'y reviendrai, et nous avons donc aussi ce qui montre côté ensemble 1, donc sur la carte en haut, côté est. Donc nous avons donc à partir de sondages stratigraphiques révélé des indices d'une occupation qui remonte au 1er siècle avant, et au sud les structures que vous voyez sont donc des structures en terre qui ont été donc révélées sous des structures en pierre, et c'est une partie qui a été érodée par le fleuve. Et nous avons donc sur la berge de l'Oued relevé, constaté la présence de beaucoup de matériel d'époque mauritanienne dans cette, ce que vous voyez, le fragment d'amphore. Donc c'est une grande jarre qui date du 2e siècle, qui est une importation de Carthage et qui porte une inscription grecque qui dans le nom de Aris. Donc nous avons donc une étendue assez importante qui fait à peu près tout le site, l'ensemble 5 étant situé, ou l'occupation de l'ensemble 5 étant située pas loin de l'ancien, ou du lit ancien de l'Oued Bet. Alors, en rouge, vous avez donc l'emplacement de la fameuse tranchée de Maurice Zana, ce qu'on a appelé le sondage ancien 1. En bas, vous, ici sur cette photo, vous avez donc une vue de cette tranchée de Maurice Zana, ouverte en 1955, telle qu'on l'a vue en 2004, lors du démarrage du programme de recherche de RIRA. Et sur cette photo, la même donc tranchée, à la fin de nos travaux en 2008, fin des travaux en cet endroit. Donc le développé stratigraphique que vous voyez donc sur la gauche correspond donc à une occupation qui a été donc évaluée sur une profondeur de mètres. Donc sur 8 mètres, nous avons constaté l'existence donc d'une occupation allant donc de l'époque médiévale, tout à fait donc en haut. Si vous voyez là, donc ça correspond en haut, cette partie-là correspond à une fosse d'époque médiévale qui coupe des structures d'époque romaine, et tout ça correspond à une occupation mauritanienne qui est datable du 5e siècle avant à 40 après. Alors dans ce sondage, j'ai allé rapidement. Ce qu'on peut donc constater, c'est donc en noir et blanc, vous avez la coupe stratigraphique qui a été donc publiée par Sylvie Gérard sur la base des travaux de Maurice Zena, et à droite donc la reprise de la même coupe stratigraphique en 2008. Alors en gros, ce qu'on peut donc constater, c'est que d'après les travaux anciens, donc ils ont déterminé deux niveaux d'occupation, le plus ancien datant donc du 3e siècle, les plus récents du 1er siècle, et entre ces occupations, on avait identifié un grand dépôt qui correspondrait aux crues du fleuve de l'Oued Bête, dans la révision, en fait, tout ce qu'ils avaient identifié comme dépôt de l'Oued Bête ou des crues de l'Oued Bête correspond en réalité à une architecture en terre. Donc vous voyez les briques ici, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient constaté. Le développé stratigraphique donc des différents niveaux d'occupation, j'y reviendrai, avec donc plusieurs phases, quatre phases, la dernière étant donc d'époque islamique, puis l'occupation romaine et l'occupation mauritanienne. Dans le niveau donc le plus ce qui a été donc constaté, toujours à partir de cette tranchée, un premier niveau d'occupation qui date du 5e siècle avant, avec vous voyez donc le matériel sur lequel on s'appuie pour dater les niveaux. Donc il y a des études qui se font sur la céramique et qui permettent d'identifier le matériel avec la chronologie correspondante. Donc nous avons trouvé dans ce niveau du 5e siècle des amphores qui sont là. Donc ce type d'amphore date du 5e siècle avant. Il y a d'autres matériels qui donnent la même date. Nous avons vérifié avec une analyse sur carbone 14, sur un ossement, et ça a appuyé la datation qui est proposée sur la base du matériel céramique. Même chose dans le même niveau, dans la même tranchée, nous avons donc identifié un autre niveau d'occupation qui date du 3e siècle. C'était une proposition de datation en 2007 sur la base du matériel archéologique trouvé. En 2008, nous avons effectué une analyse sur un ossement qui provient en fait des mêmes couches, et ça a appuyé la même datation, le 3e siècle, avec une incertitude de 40 années. Donc c'est pourquoi l'intérêt de cette tranchée de Maurice Zena que nous avons pu reprendre est très important pour l'étude des niveaux d'époque mauritanienne au Maroc, mais aussi en Afrique du Nord, voire à des contextes aussi méditerranéens, puisque nous avons des références sur le matériel de cette époque-là, avec donc la question du matériel d'importation et de production locale, ce qui permettrait de dater d'autres contextes similaires, des mêmes dates qu'on peut trouver ailleurs sur d'autres sites du Maroc antique. Voilà, pour les niveaux les plus récents du deuxième, premier siècle, donc ce que je peux signaler, donc c'est l'absence de matériel important, caractéristique. Et puis côté, donc je sais pas, vous le voyez pas très bien, mais il y a donc ce qu'on a constaté, c'est que il y a des fosses islamiques qui coupent un certain nombre de niveaux d'époque. Voilà, d'époque antique. Alors, juste à côté du sondage de Maurice Ezzana de 1955, ce que nous avons donc décidé, c'est d'ouvrir une fouille extensive sur ce qu'on appelle le sondage 5, une fouille extensive pour essayer d'attraper à l'horizontale ce que nous avons donc pu lire et interpréter à la verticale à partir du sondage de Maurice Ezzana. Et voici donc à quoi ressemble ce secteur de l'ensemble 5 il y a 2 ans, donc après les fouilles que nous avons commencé depuis 2005. Je vous explique ce que c'est. Ce gris-là correspond à une tranchée des fouilles anciennes. Tous les rangs que vous voyez là correspondent à des fosses islamiques qui ont été creusées et qui coupent des niveaux antiques. Tout ce que vous voyez là correspond à des structures d'époque romaine, reprises donc sur des structures d'époque antérieure, donc d'époque mauritanienne, et nous avons donc tout ce qui est en jaune, ce qui correspond à des structures d'époque mauritanienne. Donc pour l'époque islamique, nous avons aussi cet habitat, une forme circulaire qui, avec donc les différents trous des fosses, correspond donc à une occupation qui va entre le 9e, 10e jusqu'au 14e siècle. Donc ça date entre l'époque idrisside à l'époque mérinide. Et puis en bas, vous avez donc une coupe avec ce que nous avons pu constater. En gris, c'est des murs donc en terre, en briques, top. Là, donc, c'est des murs repris en pierre d'époque romaine, et en vert, une reprise à l'époque islamique des mêmes structures. Donc, il y a toujours cette reprise d'une époque à l'autre des mêmes structures, et il était donc important de voir comment cette zone du tel a évolué. Alors, voici le plan, ce qu'on appelle donc le plan de l'îlot de l'habitat mauritanien de Rira à l'état D. Donc nous avons donc nous avions comme objectif de restituer un peu les plans d'occupation des différentes périodes pour l'époque mauritanienne. Et donc ce que nous avons donc ce qu'on peut montrer ici, c'est l'existence d'un certain nombre d'espaces ou de pièces qui sont bien délimités, parfois des espaces ouverts. Donc ça, c'est un des états en 2017. Et puis vous reconnaissez donc ici la fameuse structure d'époque islamique qui a donc été creusée à l'époque islamique, bien sûr, et elle a détruit en partie des vestiges d'époque antique. Et dans cette partie-là, nous avons identifié un espace de rue qui a été occupé. Et là, en fait, on a quelques traces de foyers, des mawaqid, qui ont été repérées. Je vous montre quelques photos sur... Voilà. Une photo donc aérienne de la même zone, et en bas, donc ce que nous avons pu aussi constater, c'est l'existence parfois sur des niveaux de sol, donc à la Ardiyat, on peut trouver du matériel parfois complet, comme dans ce cas-là, donc une céramique modelée avec du matériel d'importation. Des céramiques qu'on appelle les céramiques campaniennes à vernis noir, qui sont importées au 1er siècle avant de la Campanie, donc d'une région de l'Italie. Et c'est grâce à cette céramique qu'on a pu donc restituer la datation de l'ensemble de ce qu'on a trouvé de ce côté-là. Or, cette zone-là est importante. C'est le même endroit donc où nous avons ici retrouvé aussi les traces d'un foyer, mais c'est un foyer qui a été établi dans une zone en pente. Donc c'est ça suggère une occupation dans une zone extérieure à l'habitat. Donc vous voyez, c'est là par rapport à cet ensemble là. Et autre chose, parfois donc les sols de l'occupation de ces pièces, de ces espaces-là, sont très peu marqués. Donc on ne trouve pas beaucoup de matériel et on sait que nous sommes donc sur un espace de sol quand nous avons affaire à des fosses foyers comme là. Donc c'est une fosse sur laquelle donc on a cuit des choses à un moment donné ou à un autre. Alors ce que nous avons donc aussi constaté par rapport à cette occupation mauritanienne du tel, c'est l'existence d'une activité potière. Vous voyez donc à gauche tout en bas des ratés de cuisson, donc qita' mouchoua hadi el fkhar, qui montre que sur le site au 1er siècle avant, il y a eu une production des céramiques. Voilà. J'ai essayé d'y aller rapidement. Donc, une pièce bien délimitée avec des murs en terre. Donc, quand je dis des murs en terre, donc ce sont des murs construits avec de la brique crue. Alors, une des questions qui est posée par rapport donc à la question de l'identification de Rira à Gilda, qui pourrait correspondre à la capitale du Maroc antique à l'époque mauritanienne, c'est donc l'existence en fait à Sidi Slimane, ça a été détruit dans les années 1940, d'un tumulus Souklar Ba'd Sidi Slimane, qui serait donc un tumulus d'une personnalité importante et qui n'est pas loin donc de Rira. Et jusqu'à maintenant, il faut dire que nous n'avons pas de preuves sur de l'identification de Rira à Gilda. Donc on pourrait discuter de ça plus tard si on a le temps. Alors, on ne peut identifier vraiment Rira à Gilda que si on trouve des inscriptions qui le disent. Il y a des inscriptions qui ont été trouvées dans la région de Sidi Slimane qui portent donc comme marque en latin "fact Gildae", donc qui veut dire fait à Gilda, donc des briques qui portent cette marque. Mais sur Rira même, on n'en a pas trouvé. On a trouvé des inscriptions importantes néopuniques. Vous voyez les images ici. Ça correspond en fait au plus lent texte néopunique trouvé jusqu'ici au Maroc. Mais ça ne dit pas que Rira est bel et bien Gilda. Donc, rapidement, sur cette zone du Tell, ce qui a changé quand les Romains sont arrivés, c'est que on ne construit plus avec la brique crue. Hachib Niubtob. On n'a pas hésité à aller très loin pour chercher la pierre. Et donc, vous voyez la photo en bas, un mur mauritanien construit en briques et le mur romain qui est construit en pierre. Donc, dans cette zone, nous avons donc pu restituer le plan de cette occupation, ce qui est montré en rouge, d'époque romaine. Mais c'est dans une autre zone du site, côté est, que nous avons donc trouvé les traces que nous avons repris la fouille d'un secteur important qui correspond donc à une occupation romaine. Là, vous voyez sur la domus romaine des écoliers un lycée de Casablanca qui nous avait rendu visite il y a quelques années. Et donc sur cette zone-là, Alors, rapidement, je vais essayer de commenter donc les diapos rapidement. Alors, les 5 points que vous voyez là correspondent donc à l'étendue de l'occupation romaine sur le site de Rira. Nous avons donc repris les fouilles dans l'ensemble d'eux. Alors, dans cet ensemble, ce que nous avons donc essayé de restituer, c'est la planification urbaine à partir donc du sondage, notamment le sondage 4. Et sur cette photo, vous voyez donc le mur d'enceinte, la muraille qui délimite la ville côté est. Et pas loin, nous avons donc retrouvé, enfin les anciens fouilleurs ont retrouvé des éléments d'une porte, d'une grande porte. Or, dans l'ensemble, le sondage 4, nous avons pu mettre au jour les vestiges d'une rue. D'une rue qui donc serait une des cardines correspondant donc à la voirie de la ville. Or, la reprise du quartier romain de l'ensemble 1 avec en vert donc la maison romaine, en rouge l'impressoire, donc la partie artisanale, et en bleu les thermes d'époque romaine. Alors, nous avons effectué quelques sondages dans cette partie. Je passe rapidement à la partie la plus importante qui correspond à la maison romaine, qui est d'un style classique, une maison à péristyle avec différentes chambres qui donnent sur donc ce patio. Une photo qui montre donc les parties mosaïquées, toutes les parties où la mosaïque ne se trouve pas a été donc affectée par des fosses, comme ce que nous avons donc vu pour ce qui est du tel. C'est une maison très riche parce qu'il a fait l'objet d'un programme décoratif qui comprend donc les mosaïques, je l'ai dit, mais qui comprend aussi les peintures murales, et on en a trouvé donc beaucoup d'éléments qui ont été restitués. Or, l'établissement thermal qui date entre la fin du deuxième siècle, début du troisième siècle, a été placé entre la maison romaine et l'enceinte. Et vous avez là une restitution qu'on doit donc à un architecte qui a travaillé avec Christian Dahl, avec nous, avec donc la représentation de la maison, la muraille et l'établissement thermal. Alors, une découverte importante il y a 2 ans, c'est un pressoir à vin. Qui a été donc découvert dans la partie au nord de la maison. C'est un pressoir à vin qui présente en fait les mêmes composantes d'un pressoir à huile, sauf que nous avons donc la preuve que ce qui a été donc pressé, la dernière en fait pression, vous avez ici donc les traces qui ont été relevées, qui correspondent en fait à une grande quantité de raisins, de pépins de raisin, pardon. Et donc ça a été analysé, et nous avons donc la preuve aussi par rapport à d'autres analyses faites sur le contenu de ces dolias, donc ces grandes jarres. Nous avons donc fait des analyses sur le contenu, et ça a montré que elle contenait donc les dolias, ils contenaient du vin rouge. Donc la dernière pression, c'est très important parce que je vous dis un exemple, à Volubilis, on a trouvé plus de 70 pressoirs, et aucun de ces pressoirs ne correspond, n'a été interprété en tout cas jusqu'à maintenant, comme pressoir à vin. Alors que le pressoir de Rira, qui présente les mêmes composantes que les huileries de Volubilis, est bel et bien un pressoir à vin. Voilà, donc je vais essayer d'aller rapidement à la dernière ou à l'avant-dernière de diapositive pour dire que donc le site a connu une importante aussi occupation d'époque islamique et que cette occupation d'époque islamique n'a jamais été signalée avant les travaux de l'équipe maroco-française. Vous avez une restitution donc de la structure circulaire du tel à droite, et nous avons donc ici sur cette image tous les rangs que vous voyez là correspondent donc à des fosses qui ont été donc qui ont affecté la domus et différentes parties aussi des thermes. Et en rouge, vous avez deux fours. Une image ici qui les montre, deux fours de production céramique qui ont produit au XIVe siècle beaucoup de matériel. Vous avez un raté de cuisson, voilà, là-haut. Je termine avec ces diapos, avec la publication d'une monographie de quatre donc volumes publiés en 2016-17 sur donc les résultats des recherches de la mission maroco-française, publication parue donc à la Casa de Velázquez, sur les recherches menées entre 2005 et 2012, et que cette publication a été donc a eu le prix Serge Lancel de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres en France comme la meilleure publication de 2017. Je vous remercie.
En votre nom, je remercie mon collègue et ami Si Mohamed Kbir Al-Alaoui pour cette présentation aussi riche, aussi précise que le site lui-même. Et c'est vrai que ça donne envie d'aller voir ce site et d'aller voir l'équipe elle-même en travaillant sur ce site. Sa présentation est aussi précise, aussi complète, qu'on a une idée sur effectivement l'évolution historique, l'évolution de l'occupation sur le site dans son contexte géographique, donc le site d'Orera n'est pas isolé, mais il fait partie de tout un ensemble de sites, comme il l'a bien montré. Il nous a montré les hypothèses sur lesquelles ils se sont basés pour travailler, et ça, c'est le travail de l'archéologue. Merci de l'avoir précisé, et merci aussi de nous avoir montré quelles sont les disciplines qui rentrent dans le travail de l'archéologue. Le travail de l'archéologue, comme vous avez pu le constater, est un travail quand même pénible, mais en même temps vraiment alléchant, vraiment intéressant. Vraiment, ça nous permet de découvrir des choses. Et je crois que la présentation qui a été faite par Si Alaoui, c'est une invitation à découvrir les sites archéologiques et à découvrir l'histoire du Maroc. Et je crois que l'équipe, il a pu ajouter, il a pu enlever la poussière sur des pages de l'histoire de la plaine de l'Gherb et de l'histoire du Maroc, étant donné que ce site, il a été quand même précisé, redaté, de l'époque du 5e siècle, voire 6e, jusqu'au 14e siècle, donc c'est-à-dire une évolution, une permanence de l'occupation, chose qui n'a jamais été mentionnée. Ils ont dans leur faveur, dans la faveur de cette équipe, qu'ils ont utilisé en tout cas ce qu'il a bien précisé, la multidisciplinarité sur laquelle nous comptons maintenant et sur laquelle toute la recherche archéologique s'accentue, parce que de plus en plus qu'on utilise des méthodes, de plus en plus qu'on découvre des choses. Et l'exemple qu'il a bien eu la gentillesse de nous montrer, l'archéologie botanique, sur tout ce que nos prédécesseurs mangeaient, que ce soit au niveau végétal, que ce soit au niveau animal, vraiment, ça nous apporte des choses et ça ouvre des horizons devant la recherche. Il nous a bien précisé aussi sur l'évolution urbaine, à travers les différentes périodes, c'est-à-dire les prémices de l'organisation de la ville à l'époque mauritanienne, les prémices de l'évolution urbaine à l'époque romaine, et voire même l'occupation à l'époque islamique. Occupation islamique, comme il l'a bien précisé, c'est la première fois que l'équipe démontre par du matériel archéologique que ce site-là, il a été occupé du 9e jusqu'au 14e, avec effectivement des témoignages d'occupation sous forme de maisons ou sous forme aussi d'ateliers d'artisanat. Atelier artisanat, qui est aussi un domaine vraiment très intéressant sur lequel l'archéologue doit marquer une pause et doit le travailler parce que ça nous apporte énormément d'informations. Bien sûr, le temps ne permet pas de dévoiler tout ce que l'équipe a trouvé. Le matériel archéologique, il a été trouvé, est d'une richesse vraiment très très intéressante et ça mérite effectivement une exposition à l'échelle internationale parce qu'il y a des très belles choses et il y a des très beaux documents qui peuvent effectivement élucider l'histoire de Rira et l'histoire du pays et l'histoire de Rira dans le contexte effectivement régional, national et international. Donc, sans tarder, je vous laisse l'occasion de poser, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des critiques même, nous acceptons même les critiques. Donc, c'est à vous, parce qu'on est là pour répondre effectivement à vos questions. Alors, commencez la discussion avec El Kbir El Alaoui. Moi, je reviendrai sur le toponyme Rira. Est-ce qu'il y a une relation entre le nom Rira, qui a une résonance arabe islamique, et le nom de Gilda? Je crois que Gilda est un nom plutôt amazigh. Ça a une résonance amazigh. Ça vient de Aglid, hein, le roi. Et je crois Gilda, c'est-à-dire le lieu où il habitait le roi. Donc, est-ce que vous avez penché sur cette problématique, effectivement, de la toponymie, la signification de Rira?
Oui, alors, le Rira, donc, comme tu l'as dit, c'est un nom arabe qui, en fait, s'approche d'un autre toponyme qu'on a retrouvé ailleurs, notamment sur un site, mais un site qui se trouverait beaucoup plus proche de Fès. Que donc de la plaine du Gharb, donc le Cès plutôt que le Gharb, qui est mentionné aussi dans les textes arabes, donc le Rira, Arira plutôt, qui est mentionné dans les sources. C'est un site qui se trouve pas loin de Fès et non pas. Alors comment ça s'est déplacé? Quel est le rapport entre la Rira de Fès et Rira? Ça, on le sait pas. Il y a des collègues médiévistes qui ont donc travaillé dessus et qui ont montré que la Rira, donc des textes, correspond donc ce site de qui se trouve donc pas loin de Fès. Bien sûr, il n'y a pas de rapport entre Gilda et Rira, donc deux toponymes différents. Le Gilda, donc mentionné dans l'itinéraire Antonin, entre autres, Pomponius Mella, c'est un site donc qui est toujours à rechercher. Nous avons émis l'hypothèse, donc il y a dans l'évolution en fait de l'interprétation deux observations à dire. La première, c'est que c'est un site qui existe puisque nous avons retrouvé des briques qui portent la marque, je l'ai signalé, de Fact Gildae, donc fait à Gilda. Qui veut dire que le site de Gilda, il existe, bel et bien. Mais ce sont des briques qui ont été trouvées alors en deux endroits, à Arbawa et sur un autre site pas loin de Sidi Simen. Donc ce sont des briques qui sont perdues. Mais l'hypothèse, donc, je l'ai dit, il y en a des chercheurs qui identifient Gilda Arira, il y en a d'autres qui identifient Gilda à la ferme Prio. Et troisième nouvelle hypothèse, c'est que peut-être que la ferme Prio et Rira correspondraient donc à deux cités importantes qui se compléteraient en quelque sorte et qui dépendraient d'un même pouvoir régional dans lequel donc se trouverait à l'époque mauritanienne la fameuse donc Gilda mentionnée dans l'itinéraire Antonin. Donc La preuve ne peut être que si on a, si on tombe un jour sur une inscription qui dit, je pense à Zilil. Zilil, on avait donc émis beaucoup d'hypothèses. Zilil qui se trouve pas loin c'est à Tcharjdid, pas loin d'Azila, à 13 km d'Azila. Il y avait beaucoup de divergences sur l'identification de Zilil à Tcharjdi jusqu'au jour où on a trouvé des inscriptions latines qui disent que c'était donc Zilil. Donc peut-être qu'on aura cette chance, Sahna.
Inch'Allah. Donc j'ai une autre question encore sur l'apport effectivement de ce programme de recherche. Et surtout, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est l'architecture en terre. Et à l'époque mauritanienne, on a vu et tu nous as montré que cette architecture, cette technique est vraiment très développée au point où vous avez mis en évidence des structures, des ensembles d'habitats. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Oui. C'est vrai que la nouveauté donc, du programme, c'est surtout cette question de l'architecture de terre. D'abord, il faut dire que la zone sur laquelle nous développons donc ces recherches concernant donc l'époque mauritanienne, qui est le Tell de Rira, donc cette zone du Tell, c'est la zone la plus étendue fouillée maintenant sur le plan extensif, la plus étendue à l'échelle du Maghreb. Donc, en général, c'est ces niveaux du mauritanien d'époque pré-romaine, ils sont touchés par rapport à des sondages stratigraphiques. Et comme tu le sais très bien, quand on fouille sur la base de sondages comme ça, on n'a pas la visibilité horizontale qu'on peut avoir. Donc la lecture, elle est en quelque sorte délimitée, elle est incomplète. Voilà. Et donc cette architecture de terre, elle est importante nous avons donc beaucoup de données, heureusement, parce que nous l'avons, disons, en quelque sorte attrapé à l'horizontale. Et c'est vrai aussi que sur le plan méthodologique, c'est beaucoup plus complexe de fouiller de la terre que de fouiller de la pierre dans des bâtiments en pierre. Parce que quand on fouille des structures en terre, difficile, si on n'a pas l'œil, d'isoler entre un mur en adobe et la destruction du mur. Parce que à l'œil nu, ils ont à peu près la même la même configuration. Et donc c'est vraiment un travail de très complexe, mais c'est aussi important parce que à l'époque mauritanienne, pourquoi est-ce qu'on a construit avec de la terre? Parce que c'était le matériau qui est abondant, c'était le savoir-faire qu'on avait. Et c'était donc quelque chose qui n'est pas du tout facile, parce que nous avons constaté, par exemple, que les Romains, donc à l'époque romaine, quand on a construit avec de la pierre, il y a beaucoup de structures qui reposent directement sur des murs en terre, parce qu'ils sont aussi solides que des murs en pierre. Donc c'est vraiment la question qui a été donc assez développée par des spécialistes. Je nomme donc Clairin de Chazel, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et les spécialistes d'architecture de terre. Et il y a un collègue aussi, Jean-Claude Roux, qui est aussi spécialiste. Il travaille sur ce qu'on appelle la mise en œuvre de l'architecture de terre. Et nous avons, avec ces spécialistes, moi-même aussi, fait des visites, mais surtout une visite d'études dans les oasis du sud-est, à Ressani, pour visiter donc l'Exor de la région et pouvoir donc voir ces murs, cette architecture en terre debout. et voir en fait quand il s'agit de Qsour qui tombe en ruine, et il y en a beaucoup dans cette région, comment s'effectue cette destruction, et essayer de faire donc à partir de l'expérimentation des recherches qui nous aideraient donc à mieux fouiller cette architecture de terre de Rira. Voilà.
Merci beaucoup. Et c'est ce qui explique, effectivement, je ne sais pas pour les gens qui connaissent un petit peu le Gharb, ben c'est la technique la plus répandue. Et c'est ce qui explique la permanence, effectivement, de cette technique d'architecture et qui continue, pas simplement dans le Gharb, mais même ailleurs. Donc, c'est-à-dire, c'est une technique ancestrale qui a été utilisée et à laquelle on continue à utiliser jusqu'à maintenant. Alors, dans la courbe de stratigraphie que tu nous as montré tout à l'heure, on a vu que de temps en temps, il y a des lacunes entre les constructions. Et peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça remonte pas à des phases d'inondation de Oued Beth?
Pour ce qui est donc de la zone du Tell, à partir donc de la reprise du sondage de Zena, toutes les structures qui ont été donc identifiées correspondent vraiment à de l'architecture de terre. Et on n'a pas identifié, mais du tout, de dépôt de crue de l'Oued. Ce que peut-être, je ne sais pas si vous, mais il y a un niveau qui correspond. Il y a un niveau, le niveau du 3e siècle, c'est un niveau qui correspond donc à une succession de couches qu'on a interprété comme un dépotoir. C'est un dépotoir qui fait plus d'un mètre, un dépôt qui fait donc plus d'un mètre, dans lequel nous avons donc constaté l'existence de beaucoup de matériel archéologique et organique, mais le même matériel qui se répète, donc vraiment un dépotoir dans lequel on a jeté donc tout ce qu'on a jeté. C'est grâce à cette richesse de ce dépôt qu'on a pu donc restituer beaucoup de matériel de cette époque-là. Non, toute l'architecture pratiquement qui se trouve sous les constructions en pierre qui sont elles d'époque romaine sont des structures d'époque d'époque pré-romaine, mais des structures en terre qui se développent ainsi jusqu'au donc la structure la plus profonde, le niveau du 5e siècle, qui repose directement sur le sol vierge.
Shukran Oustad Mohamed Kbir El Alaoui et Oustad Hassan Iman.
Nadwa.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.